Radio Capi, grand cœur.
Et homme politique congolais, ancien président du conseil législatif, actuellement il est modérateur de l'Union sacrée pour l'alternance, un regroupement politique de l'opposition, Anzuluni Bembe Isiliononi, et celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Monsieur Anzuluni, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, madame.
Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours politique. Vous nous direz comment vous vous êtes retrouvé dans la politique, mais également nous placerons un mot sur ce regroupement qui regroupe des partis politiques de l'opposition. On va en parler tout au long de notre entretien. Mais avant d'en arriver, comme d'habitude dans notre émission, une petite biographie de vous. Vous êtes né à Mukera, au sud Kivu, un certain 25 février 1943. C'est là que vous passez votre enfance?
Non, pas tellement. Parce que à peine 9 ans, j'ai quitté ce village que j'aimais beaucoup pour les études. J'ai commencé l'école primaire à Fizi, chef lieu du territoire, qui porte le même nom. Je l'ai continué à Baraka, un grand centre du territoire de Fizi. Et je les ai terminés en partie à Bujumbura, en 58. 58-59, je me retrouve à Kasongo, au Maniema, pour faire la 7e primaire.
7e primaire, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, à l'époque coloniale, je ne veux pas dire que les colons voulaient toujours nous retarder. Quand vous terminez la 6e primaire, on vous envoie dans une section qu'on appelait préparatoire. C'était la 7e. Ça, on vous prépare avant d'entrer soit à l'école de moniteur, soit à l'école moyenne, ou soit dans un collège dirigé par le prêtre. Voilà, en fait. Et moi, je me suis retrouvé justement en 58-59. Je me suis retrouvé en 7e à Kasongo. Et en 59-60, j'ai commencé mes études secondaires au collège Gaudien de Kasongo, qui venait d'être créé d'ailleurs. C'était un nouveau collège. Et c'est là où j'ai fait la première année et la deuxième année. En 61, je me suis retrouvé à cause des événements après la mort de Lumumba, tous les prêtres ont suivi le maniement. Et je me suis retrouvé à l'Athénée du Banda à Bukavu, qu'on appelait en ce moment-là l'Athénée royale dans le temps. Voilà comment j'ai fait mes études secondaires. Et je les ai terminées en 65 à l'Athénée du Banda.
Vous êtes licencié en sciences commerciales de l'université de Louvagnum, donc Kinshasa.
Après les études secondaires à la tenue du Banda, à Bukavu, je suis venu en 65 à l'université de Louvagnum, où j'ai entamé les études en sciences commerciales. Je les ai terminées en sciences commerciales et consulaires, en 69.
Sciences commerciales et consulaires. Consulaires, ça a un rapport avec les consuls?
C'est-à-dire que c'était en fait ce que vous appelez aujourd'hui, je crois, relations internationales. Parce que nous avions, nous, cet avantage d'étudier plus, en plus de la comptabilité et des sciences commerciales, nous étudions aussi les relations avec les pays extérieurs dans le cadre commercial. C'est comme ça qu'on appelait. Il y avait deux sections à notre époque, en sciences commerciales. Il y avait les sciences commerciales et financières, les sciences commerciales et consulaires. C'était comme ça, en fait. Je les ai terminés en 69. Nous étions 4 dans notre promotion. 4 semaines.
Seulement 4. Donc vous avez étudié dans de très bonnes conditions.
Disons que j'ai toujours dit que nous avons eu la chance d'étudier dans ce pays. Depuis 61, quand je suis arrivé à la Tenue, jusqu'en 65, quand j'ai terminé, j'ai été à l'internat. Et cet internat-là, les conditions étaient telles que c'était les études de bonnes conditions. De bonnes conditions parce que chacun avait sa chambre. Et que ce soit la lingerie, que ce soit l'alimentation, tout était préparé. Tout. Même nos vêtements, nous, étaient lavés. Ce qui veut dire que c'était extraordinaire. Et là, nous avons terminé, nous avions de bons professeurs. C'est vrai, avec les événements de 61, il y a eu des professeurs qui sont partis. Nous avons eu des Haïtiens, nous avons eu des Bèzes qui étaient venus, ce qu'on appelait les Tutsalisana, qui sont venus donner cours. Mais quand nous sommes arrivés à 69 à la Réunion, nous avons étudié dans les mêmes conditions. Je dis bien, quand je vais aujourd'hui à l'université, il ne faut pas me dire que j'ai envie de pleurer. Non, intérieurement, je pleure. Nous étions tout au plus, l'université, où voilà, 2500 étudiants à cette époque.
Pour toutes les facultés.
Pour toutes les facultés et avec les mêmes bâtiments. Parce qu'il n'y a rien qui s'est ajouté.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre jeunesse, M. Anzuluni?
Oh, vous savez, il y en a beaucoup. La première des choses, c'est quand nous avons accédé à l'indépendance en 60.
Vous aviez quel âge?
Calculé, j'avais 17 ans. Quand nous avons terminé, nous avons accédé à l'indépendance, c'était la joie. Et puis, dans la jeunesse, parce que j'ai été dans les mouvements de scouts, c'était des moments idéaux. Parce que là, ça formait la jeunesse. Ça nous a formés à ce moment. Et je peux dire que c'était l'époque, d'ailleurs, qui nous a donné tous envie de faire de la politique. Parce que là, chaque groupe, chaque jeune, se sentait nationaliste. Il y a très peu qui vous diront que les jeunes de cette époque, qui n'étaient pas de l'Oumoubis.
Radio Capi, grand témoin.
Je voudrais signaler à nos auditeurs que nous sommes dans le jardin de M. Anzolouni. De temps en temps, vous entendez un chien qui aboie, c'est le chien du voisin. Alors, parlons de votre parcours politique. Comment vous vous êtes retrouvé dans la politique, M. Anzolouni Dembe?
C'est-à-dire que quand j'ai terminé en 69, je ne me suis pas engagé directement en politique. J'ai travaillé d'abord pendant 7 ans à RZAI, au Congo, là aujourd'hui.
Qui est en faillite aujourd'hui?
Ce n'est pas nous. Nous avons laissé RZAI fonctionner encore. Je vous l'ai dit.
C'est pas vous, vous qui?
Nous, de la Deuxième République, ça c'est autre chose. Et puis j'ai travaillé à l'OCC, qu'on appelait à l'époque OZAC. C'est là où j'ai été administrateur directeur financier. C'est en 81 que j'ai commencé à entrer en politique. En 81, M. Ngouz forme le gouvernement, premier commissaire d'État. Et là, je me suis retrouvé son conseiller financier. J'ai quitté l'OCC, l'OZAC, à ce moment-là, et je suis allé en politique. Malheureusement, 7 mois après, Ngouz a décidé de partir. Et je suis rentré à l'OCC, mais ça sera un an après parce que j'avais problème avec les dirigeants. Et alors en 82, j'ai décidé d'aller me présenter aux élections.
Vous vous êtes présenté comme commissaire du peuple.
Et ce mot commissaire du peuple avait un sens. Avait un sens. C'est-à-dire que c'est le représentant du peuple. C'est ça en fait le mot commissaire du peuple. Qui représentait le peuple. Et là, je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'ai représenté le peuple. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour y aller? Moi, je veux vous dire d'emblée, je l'ai toujours répété, quand j'étais étudiant, je n'ai pas adhéré au MPR, ni à la JMPR. Au contraire, j'étais membre de l'UJEP, Union Générale des Étudiants Congolais. J'étais le marxiste. J'ai dirigé l'UJEP Lovanium pendant 2 ans, de 67 à 69. Donc, ça veut dire que je n'avais pas une carte du MPR quand je me présente à 80. Je n'avais jamais adhéré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, effectivement? Vous présentez vos candidatures et le comité central du MPR avait ce critère. Il retient le nom des gens. On m'avait retenu pour la circonscription électorale de Fizi, moi. Et là, je veux vous apprendre quelque chose d'assez intéressant parce que c'était la politique. J'ai quitté Fizi en 63, lors de la rébellion Moulindis qu'on appelait. Et là aussi, un jour, je voudrais qu'on parle de ça. Parce que cette rébellion-là, ce sont les mêmes qui ont fait la rébellion de mon ancêtre. Ce sont les mêmes. Les mêmes. Et quand vous dites que la Deuxième République a détruit l'économie, mais les premiers destructions qui étaient faites par les Moulindis, demandez aux gens du Maniema, demandez aux gens de la province orientale, même jusqu'à Bolobo ici, parce que là, les Moulindis avaient pris les 2 tiers du pays. C'est pas seulement que les petits industries que les deux avaient laissés ont été découverts. Bref, j'ai quitté là en 63. Quand j'ai étudié secondaire et université, je ne suis pas rentré parce qu'il y avait la révision. Mais j'ai commencé à travailler. 82, ça dit 19 ans après, j'ai été élu là-bas.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux élections en 82?
Je vous dis que c'était en moi, la politique. Quand j'étais étudiant, je militais déjà dans les mouvements étudiants qui avaient tendance politique. Je vous dis que quand j'étais étudiant, nous combattions la JNPR. Donc, nous faisions déjà de la politique. Les mouvements, par exemple, de 69, le 4 juin, s'il y a des gens qui peuvent vous l'expliquer, qui sont encore vivants, je suis parmi ces gens-là. En fait, c'était à moi. Je voulais faire de la politique. Et je ne la voulais pas d'être nommé, d'abord d'être choisi par le peuple. Donc, c'est comme ça que j'ai été élu en 82. Et comme c'était ma voix, tout s'est ouvert en moi. En 84, je pose ma candidature comme président de l'Écosystème. Ce n'était pas le MPR qui désignait les, comme aujourd'hui on vous dit, ça c'est pour telle plateforme. Non, là, c'était les députés eux-mêmes qui s'agissaient en dehors du président du Conseil d'État. Tous les autres membres du bureau, à commencer par les grands bureaux sur les commissions, étaient élus par les députés. Je me suis élu président de l'Écosystème en 84. Et en 87, je suis reparti encore. Et là, je vous dis la différence entre maintenant, ici, quand on vous dit que les élections auxquelles vous avez participé n'étaient pas démocratiques. Madame, non, ce n'était pas multipartite. Mais démocratiques, elles étaient. Parce qu'il y avait pour chaque siège, au moins 7 personnes. Je dis bien, par siège, au moins 7. Chez moi, il y avait 7. Et ces 7-là, les partis, l'État ne pouvait pas vous donner de moyens. Parce que tous vous étiez censés être membre. Il va donner à qui? Vous deviez vous faire accepter par le peuple. Et une fois vous êtes élu, à ce moment-là, celui qui a pris des voix, il est passé. Et celui qui venait après lui était son tuteur. Nous pouvons dire que même au Parlement, nous travaillons avec une démocratie. Moi, j'ai présidé cette assemblée pendant presque 8 ans. Mais je n'ai jamais reçu une injection du président Mobutu pour telle ou telle loi.
Quand il y avait une loi, si vous l'avez reçue, vous n'allez pas nous le dire.
Non, monsieur, madame, je peux vous le dire. Votre émission, c'est grand témoin. Vous voulez que je témoigne. Et ce que je veux vous dire, il y a des gens qui sont là, qui sont encore là, qui étaient des députés avec moi, qui étaient les députés quand j'ai présidé. Il y a ceux qui étaient des présidents, les membres du bureau, ils savent ça. Je voulais vous dire que quand il y avait les options du comité central, les options du comité central qu'il fallait couler sous forme de loi. Et là, vous n'aviez pas à refuser cette option. Mais tout ce qui est loi, discuter, divulguer, malmener un député. Je vous dis, moi, je suis connu dans ce pays-ci. Je suis connu parce que je faisais toujours le débat. Le débat public. Il y avait toujours en bien. Et là, c'est pour cela qu'il se soit à Kinshasa. Qu'il se soit à l'intérieur, ils connaissent toujours un zoom bien deux parce qu'ils voyaient ça. Ils voyaient comment on travaille. Et là, recevoir des directives, il n'y en avait pas. Au contraire, quand il y avait un député qui malmenait le gouvernement, qui disait qu'on gère mal, le soir, le président me disait, Mamoni, un de vos députés là, a dit toujours gérer mal, il dit ça. Oui, on gère très mal. Il dit, et lui peut faire quoi? Il dit, je peux gérer. Parce qu'il a critiqué. Il a dit, ok, on va lui donner un peu pour nous. Peut-être qu'il peut faire mieux. Donc, pour vous dire comment c'était cette histoire.
Et donc, ça se passait comme ça, lorsqu'un député critiquait le gouvernement, on le prenait pour le mettre à ce poste-là pour voir comment lui va gérer.
Non, pas tout le temps. C'est-à-dire, ça arrivait sans qu'on voit que ce député-là a défendu des idées. Voilà. Et que ces idées-là, et on les trouvait d'ailleurs même au gouvernement, ce n'était pas tout le temps. Parce qu'après tout, le travail des députés, c'est c'était de critiquer. Au Parlement où j'ai été, pendant 8 ans, j'ai dirigé le Parlement, quoique même la CRPT, et là c'était déjà la démocratie.
Il faut dire que le HCRPT était une institution de la plus longue transition en Mobutuienne.
Vous savez, la transition, si elle a été longue, c'est en fait les opérateurs politiques congolais qui l'ont rendu. Parce que quand le président Mobutu convoque la conférence nationale, quand il convoque la conférence nationale, il y avait un timing. Mais les gens de la conférence arrivent, ils se proclament d'abord souverains. C'est-à-dire, et ils sont convoqués par une ordonnance du président de la République, sur base d'une constitution. Et à partir de ce moment, c'est pendant la conférence qu'on a créé cette transition. Et quand on est arrivé à CRPT, pour arriver à ça, vous savez ce qui s'est passé. Mais le président a dû intervenir, demander aux membres de la conférence, ils sont encore là. Il a dû intervenir comme ça, nous avons atterri en catastrophe. Parce qu'il a dit, long, c'est très long. La récréation est terminée. Ou vous terminez votre histoire, ou on reprend une autre vie. C'est comme ça qu'on a terminé la conférence. Et la transition a commencé. On désigne le premier ministre. Si il ne travaille pas, on désigne juste ainsi. Effectivement, elle était longue.
Est-ce que vous qui étiez au pouvoir, vous vouliez tirer les choses en longueur?
Vous savez, quand vous dites ça, parce que déjà au conseil parlementaire de transition, le pouvoir était partagé. Nous étions d'ailleurs ceux qui étaient à notre conseil législatif. Nous étions minoritaires. Nous sommes venus là à peu près 211 sur les 700. Ça veut dire qu'on était déjà minoritaires. Et vous avez vu vous-même qu'à cette époque-là, la conférence a désigné son premier ministre. Et je crois que historiquement, je dois vous dire pourquoi et trois fois on a désigné la même personne. Vous n'allez quand même pas dire qu'on l'a empêché à tout temps. Ça, c'est facile à dire. Et ce serait le Mobutiste qui voulait traîner. Ah, pourquoi traîner? Parce que nous nous trouvions dans la même situation que les autres à ce moment. Mobutu s'était installé à Badolité, et là c'était une erreur politique, parce que dans le moment où il s'est installé à Badolité, et si nous n'étions pas en mesure de contrer les choses, la conséquence c'est que les services de sécurité, comme l'armée, ont été laissés de côté.
Et vous qui étiez tout autour de lui, pourquoi vous ne lui avez pas fait voir que c'était une erreur politique d'aller s'installer à Badolité?
Non, vous savez, ça c'est facile à dire. Nous on savait que ce n'était pas bien. Mais ce que vous appelez aujourd'hui l'opposition, qui s'appelait l'opposition, avait mis une pression sur le président Mobutu, jusqu'à ce que la communauté internationale lui a demandé de ne plus s'occuper de la gestion. À partir de ce moment, il a dit que la meilleure solution de ne pas m'occuper de la gestion, je vais m'installer à Badolité. Comme ça, je laisse au premier ministre, à l'heure au conseil parlementaire de transition, de gérer le pays. Ce n'est pas que parce que lui ne voulait pas, mais il regrettait ça, je vous dis, chaque fois que vous parlez avec lui, mais la communauté internationale tenait à ce que lui ne se mêle plus quand il a laissé aux autres cette gestion. Vous connaissez vous-même la conséquence qu'on a.
Et depuis ce moment jusqu'à sa chute, donc, il gérait plus le pays. C'était le premier ministre qui avait la gestion du pays.
De toutes les façons, le gouvernement, comme le service de sécurité, dépendait du premier ministre. C'était ça. Lui, il recevait le premier ministre, parce qu'il restait quand même le chef de l'État. Et le premier ministre venait lui rendre compte. Mais il n'avait plus la gestion courante des affaires comme il avait pendant les 32 ans qu'il a été, ou 30 ans.
Il avait quand même un mot à dire.
Oui, non. En tant que président, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas un mot à dire, mais ce n'est plus lui qui fait exécuter ce qu'il dit. Mais pendant toute cette période, lui, il faisait exécuter ce qu'il disait. Et là, vous aviez vu qu'aucun pays étranger ici ne pouvait pas oser mettre son pied au pays. Ne pouvait pas oser venir dire que ce petit morceau de ce territoire m'appartient.
Non.
Aucun. Tout ce pays-ci. Regardez ce qui nous entoure. Il y en a même. Aucun. Nous avons même été, nous, avec notre armée, nous sommes passés au Nigeria.
Une grande puissance aujourd'hui africaine.
La guerre de Biafra.
Nos hommes sont allés se battre.
Oh. Quand lui s'est retiré de ça,
ce n'était pas vraiment parce qu'il voulait se reposer.
Non, au contraire, ça lui faisait mal.
Et il voyait la fin de son règne arriver?
Non, je ne crois pas qu'à cette époque-là, tu pouvais voir déjà que c'était la fin de son règne. À cette époque-là, il voulait jouer le jeu.
C'est-à-dire, vous avez dit, nous allons faire une démocratie. Allons-y. Ou vous dites que le président reste tout simplement pour inaugurer les choses.
Allons-y.
Et la conséquence, c'est que ce qui le remplaçait n'avait pas la même capacité de voir les choses comme lui qui connaissait bien ce pays.
La plupart. Je ne dis pas que les premiers ministres ou d'autres n'étaient pas à mesure.
Ils étaient à mesure. Mais ils n'avaient pas la même force que lui avait vis-à-vis de forces militaires ou de forces de sécurité. Il ne l'avait pas.
À partir de ce moment, il y a eu un relâchement.
Or, si vous n'avez pas une armée forte, si vous n'avez pas un service de sécurité assez fort, vous êtes sûr que vous êtes à la merci de n'importe quel autre pays.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Anzuloni Bembe Isilonyoni, homme politique congolais, ancien président du Conseil législatif, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Actuellement, il est modérateur de l'Union sacrée pour l'alternance, un regroupement politique de l'opposition, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. En 97, à l'arrivée de l'Afdel, vous avez pris le chemin de l'exil. Pourquoi vous avez préféré aller en exil au lieu de rester au pays? Vous étiez une cible pour le nouveau régime qui arrivait?
Ça, c'est une très bonne question. Je suis parti d'ici le 14. C'était le 17 mai qu'ils sont entrés. Je suis parti le 14. J'étais le dernier à partir. Je n'ai pas fui Laurent Kabila.
Non, je ne pouvais pas le fuir, effectivement.
Son maquis l'a fait dans ma circonscription.
Donc, on se connaissait.
Il ne pouvait pas.
Je suis ce qui l'a amené. Les Rwandais.
Il m'a dit, je sais, vous avez fils déjà qui m'ont amené. Et ce qui est vrai, parce qu'ils sont entrés le 17 et le 18, ils étaient ici.
Vous avez un problème particulier avec le Rwanda?
C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'amalgames là-dedans. Vous avez suivi que pendant la transition, il y avait des résolutions, ce qu'on avait appelé les rapports Bang, qui clarifiaient la situation, qui est congolais et qui ne l'est pas, à l'est du Congo. Et ce rapport a conclu à ce que tout ce qui n'était pas congolais, il devait partir d'abord. Bon, la conférence avant, il devait partir de ACRPK. Et comme moi, je suis d'abord originaire du Kivu, et présidé à ce moment-là au destiné, les gens estimaient que ça ne pouvait venir que de quelqu'un du Kivu. C'est mon seul problème que j'avais avec ça. Parce que pour eux, ça je le dis parce que ça a été écrit partout, que moi qui ai ordonné à Bangou de dire que tous les Rwandais puissent quitter le Congo. Ça, c'était le seul problème. Et Kabila savait ça. Je dis bien, il a dit, c'est un de ses conseillers spéciaux, il est encore en vie. Il est dans cette ville, qu'il a envoyé là où j'étais. Parce que moi, je suis pas allé me réfugier en Europe. J'étais au Bénin pendant 5 ans. En Europe, je suis allé les 2 dernières années parce que j'étais sur le l'extérieur. Et là, il m'a dit, vous êtes nationaliste comme moi. Maintenant, quelqu'un qui m'avait amené son parti, je veux que vous reveniez. Et nous devions nous rencontrer avec lui au Cameroun. Le voyage qui devait faire qu'il n'a plus fait.
Tout est là. Même j'ai retrouvé la correspondance que j'ai échangée avec lui. Pour ça. Donc, je fuyais parce que nous étions envahis. Et les gens qui nous envahissaient ne pouvaient pas me supporter. Je suis parti pour ça. C'est pour ça que j'avais laissé tout dans ma maison. Parce qu'ils me disaient que j'allais revenir.
Après combien de temps?
Moi, je me disais que j'allais faire un mois pour visiter, mais j'ai fait 7 ans avec ça. C'est 7 ans, je les ai passés 5 ans au Bénin, où j'ai passé mon temps à réfléchir, à lire, et j'ai eu l'occasion de lire la Bible aussi. Ça m'a permis de lire.
Ça, oui. Avant ça, vous n'aviez pas l'occasion de lire la Bible?
Non, c'est-à-dire, moi j'ai une vie, je vous ai dit que quand j'étais étudiant, j'étais martyr. C'est-à-dire, depuis 61 jusqu'à 82, je ne mettais pas mes pieds à l'église. J'avais refusé d'aller à l'église.
Pour quelle raison?
Parce que je ne croyais pas en Dieu. Mais Dieu a fait une histoire dans ma vie. À 82, Dieu m'a dit, c'est fini ça. C'est fini. Et depuis 82, je ne fais rien sans lui. Et c'est pour cela que je vous ai posé la question aussi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Quand je vous ai parlé qu'avec la foi, vous pouvez soulever les montagnes. Non, ce n'est pas parce que je suis un prophète. Je ne le serai jamais. Mais c'est parce que Dieu m'a dit de faire pour ce peuple-là. Vous savez, quand je suis revenu au pays, je suis resté longtemps observé.
Longtemps. Ça fait combien de temps que vous êtes revenu au pays?
Je suis revenu en 2004. Ça fait bientôt 6
ans. Ça fait 6 ans. C'était un repli stratégique ou bien c'était un aveu d'impuissance On entendait même plus parler de vous.
Exact. Vous avez raison là. Là, madame, je crois que c'est, ça vaut la peine d'en parler. C'est, vous avez dit un retrait stratégique, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose que le président Mobutu avait fait quand on a commencé le processus. Je suis arrivé ici, tout le monde avait dit, ce sont les Mobutistes qui ont détruit ce pays. Ce sont les Mobutistes. Moi, j'ai dit personnellement, nous allons d'abord laisser faire. Pour voir où est-ce qu'on va. Mais après mille réflexions, en 2006, j'étais prêt à me lancer déjà. Je dis bien, en 2006, j'étais prêt à me lancer.
Mais qu'est-ce qui vous a empêché?
Ce qui m'a empêché, ce sont les aléas politiques. Et après avoir observé, encore, je me suis dit non. Le moment est venu. C'est vrai qu'avec d'autres, qu'on ne laisse pas ce pays s'effondrer, madame. Le moment est venu qu'avec d'autres, nous puissions proposer une alternance au pouvoir actuel. Le pouvoir actuel est déjà là, ça fait 13 ans. Parce qu'en fait, tout ça sont les appendices de la PDL. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dit non. On ne peut pas laisser tomber ce pays. Nous voulons cette fois-ci allier la nouveauté, c'est-à-dire les jeunes, et les anciens qui ont l'expérience de ce pays, qui le connaissent. Et c'est pour cela que nous avons dit, on va se lancer à fond maintenant en politique. Mais pendant cette période-là, ne croyez pas que je restais mon temps à
lire la Bible,
ou à lire. Non. Chaque document qui sortait dans ce pays, que ce soit le budget, que ce soit le débat, j'y participais à ma manière.
Aujourd'hui, vous êtes sorti de votre silence. Vous êtes un modérateur d'un regroupement politique de l'opposition, Union Sacrée pour l'alternance. C'est la souffrance du peuple congolais, c'est tout ce que vous avez observé qui vous a poussé à mettre en place ce regroupement politique.
C'est pas moi qui l'ai mis en place, ma soeur.
C'est qui?
C'est-à-dire que nous sommes regroupés. Notre regroupement, il y a là-dedans des partis politiques. Il y a même des mouvements étudiants ou de jeunes. Et il y a les personnalités politiques. Nous avons réfléchi pendant un certain temps, plus de 6 mois. Nous sommes arrivés à la conclusion que si nous ne faisons rien, nous serons responsables vis-à-vis cette fois-ci de Dieu. Vous savez, je dis toujours ça, je l'ai dit même à un prêtre, je dis, avec les richesses que nous avons, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si un matin je me pointe chez lui après le jour de ma mort, je dis, moi c'est Angelouni, je viens du Congo, j'ai été président de l'Assemblée, j'ai fait l'université, et je viens parce que j'avais la foi en vous, mettez-moi au ciel, toi tu vas me chasser. Il va dire, vous, dans quel état vous avez laissé nos brebis. Avec cette intelligence, cette richesse qu'on vous a donnée, que vous vous pointez chez moi en disant que vous voulez vous venir vivre du bonheur ici. Non, non, vous vous envoyez en enfer. Tout simplement parce que c'est la non-assistance en personne en danger. Quand nous avons fait l'analyse, nous avons dit, nous n'allons pas prendre les armes comme la plupart. Nous avons dit, parce que nous voulons jouer le jeu démocratique, par la voie démocratique, nous allons nous lancer pour pouvoir prendre le pouvoir démocratiquement. Pas pour nous servir. Je le dis parce que, personnellement, par exemple, moi je ne me vois plus chercher de grosses voitures, chercher autre chose. J'ai été un responsable dans ce pays.
Et j'ai dit, vous avez eu tout ça, les grosses voitures, vous avez roulé dans des très belles voitures, vous avez vécu dans les luttes.
Je suis d'accord avec vous, je vous ai dit que je n'ai que ça comme maison. Donc, où nous sommes là dans ces jardins, c'est tout ce que j'ai dans cette ville. Mais ce qui nous pousse aujourd'hui avec les autres, c'est de sauver ce pays. Nous avons mis en place le mouvement politique pour pouvoir nous présenter aux échéances prochaines et que nous puissions.
À tous les niveaux?
À tous les niveaux, le regroupement. Et ce regroupement, il n'est pas uniquement ce que nous sommes là. Nous avons dit que tous qui ont comme nous la même vision, c'est-à-dire de changer ce pays d'abord, c'est-à-dire l'alternance, un changement radical dans les méthodes de gestion et de gouvernance, nous sommes d'accord de marcher avec eux.
Alors, vous ne trouvez pas que ça fait quand même trop des regroupements au sein de l'opposition? Pourquoi ne pas seulement vous rallier à l'Union pour la Nation qui existe déjà et en 2011 présenter un candidat?
Merci pour cette question. Je crois que l'Union pour la Nation, ce n'était pas en fait un regroupement politique. Non, c'est un regroupement électoral. C'est un regroupement qui était né pour soutenir le candidat Jean-Pierre Bemba. En face, il y avait le regroupement qui se trouve là. Et aujourd'hui, si nous avons créé ce regroupement, ce n'est pas autour d'une personne. Et quand vous entendez d'ailleurs même l'Union pour la Nation, ils vous disent, ils ont leur chef, c'est Bemba. Et nous, nous disons pour nous, ce n'est pas autour d'une personne que nous faisons ce regroupement. Nous faisons autour des idées, autour d'une vision et d'un programme commun que nous allons soumettre prochainement au peuple pour que les gens puissent voir ce que nous prétendons faire mieux. Comment nous comptons le faire? Et nous sommes très contents d'ailleurs. Nous ne voulons pas d'accommodation. Nous disons que nous devons remplacer ce qui dirige le pays aujourd'hui et gérer autrement ce pays. À notre époque, le budget n'était jamais discuté sans avoir étudié l'exécution du budget de l'année passée. Je dis bien, poser la question, ils sont là, ils sont encore en vie. Il y a ceux qui sont au Parlement aujourd'hui. Et il y a même le président du Sénat qui était le Premier ministre qui sait ce que ça veut dire. Quand il venait, il devait d'abord nous donner l'exécution du budget. Il y a un moment, mon grand ami Sapama, qui était ministre du budget à un moment donné, il est au Parlement.
Il sait ça. Vous voulez changer cette méthode de gestion et de gouvernance? On a entendu ça plusieurs fois, plusieurs politiciens dire ça, mais une fois au pouvoir, c'est pas ça qui se fait. Vous pensez qu'avec vous, les choses vont changer?
Vous avez raison, madame, qu'on a entendu ça. Et en fait, chaque chef, chaque personne qui tient un parti politique, il vous dit que moi, je vais gouverner de cette manière-là. Mais nous, nous avons la certitude que nous pouvons le faire parce que nous ne cherchons plus à être des prédateurs. On ne cherche plus, vous l'avez dit ici tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez roulé dans toutes ces grosses voitures, tout ça. Non, on ne cherche plus ça. Ce que nous voulons, vous savez, tout le monde dit que les 50 ans, on a perdu. Il n'y a rien. Effectivement, économiquement, nous avons perdu les 50 ans. Or, maintenant, notre objectif, c'est que pour les 50 ans à venir, il faut que nous commencions une fondation. Et vous ne pouvez pas construire une maison en commençant par la bâtisse. Non, il faut une fondation. Et la fondation, c'est ce que nous voulons faire. Nous disons que, parce que nous ne le faisons pas autour de personnes, mais nous disons que c'est autour d'une vision. Des objectifs précis. Et ces objectifs-là, c'est ça que nous allons soumettre sous forme de programme au peuple congolais.
Alors, monsieur Amouzouni, vous vous faites appeler modérateur de ce regroupement politique, pourquoi pas coordonnateur au président? Est-ce qu'il y a une différence?
Je ne me suis pas fait appeler modérateur.
On vous appelle?
On m'a désigné modérateur. C'est-à-dire, nous avons récisé justement, c'est ça la nouveauté que nous avons introduite dans ce pays. Notre nouveauté, c'est que nous ne voulons pas d'un regroupement autour d'un président, autour d'un vice-président. Nous sommes égaux. Moi, je suis le modérateur et tous les fondateurs sont les co-modérateurs. C'est-à-dire, nous voulons partir en disant que, laissons d'abord de côté cette affaire de président, secrétaire général. Non, disons que nous sommes tous là. Mais autour de quoi nous allons nous travailler? Seulement de ce programme commun. Là, nous nous retrouvons. C'est moi. Quand il faut représenter notre regroupement à l'essayer, c'est moi. Mais il y a les porte-parole qui doivent parler chaque jour. Chaque fois qu'il y a une situation, ils doivent parler. Mais quand nous nous retrouvons, si moi je ne suis pas là, il y a un co-modérateur qui préside. Donc ce n'est pas parce qu'on ne veut pas tout simplement président, mais c'est parce que nous ne voulons pas une personnalité, on dit que c'est autour de lui tout simplement. Mais nous voulons que ce soit autour des idées, autour de notre programme.
Comment vous passez vos moments de détente, monsieur Anzoloni?
Et c'est là qui va vous surprendre depuis longtemps. Même quand j'étais aux affaires, c'est rare que tu me vois quelque part pour me divertir. Même pas pour les restaurants. Actuellement, maintenant, mes temps libres, je dis que la journée, ils savent mes collaborateurs qui sont avec moi ici. Je travaille. J'ai un petit bureau ici à la maison. Ce que vous voyez là derrière, c'est mon bureau, mais pour le moment, il est rempli. Je travaille. Mais le soir, tout ce que je sais, je suis le débat. Malheureusement, je ne suis pas beaucoup le débat qui se passe chez nous parce qu'il y a trop de sentiments. Je suis le débat dans des télévisions étrangères et ça me prend du temps.
La musique, vous aimez?
La musique, c'est vrai. Dans le temps, j'aimais les anciens musiciens qui sont aux vedettes. Il y avait Franco et Calais. Pourquoi Franco et Calais? Parce que non seulement c'était la rumba, mais la rumba douce. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens. Il y a des gens comme Kofi et les autres. Ils chantent la même rumba, mais n'est pas douce. Elle est bouillante. Et moi, je ne me vois pas danser ça. Mais je danse. Quand je vois beaucoup de musique là, je regarde. Parce que là, je vois les gens. Et là.
Ça me rappelle les bons moments de votre jeunesse.
Non, ma jeunesse a été. Je vous dis, madame, que ma jeunesse n'a pas été. Demandez aux gens qui étaient avec moi à l'université. Nous, on n'allait pas au boom, les membres de l'IGE.
Ils étaient dans des livres, dans des bouquins.
Nous étions toujours dans des réunions. Quand Yann Smith proclame l'indépendance de Rhodésie, nous, on se réunit pour marcher, pour aller casser l'ambassade britannique. Quand il y a en Afrique du Sud, c'est pour cela que vous avez vu Mandela d'ailleurs venir ici. Il est venu remercier les Congolais parce qu'il l'a aidé. Moi, je l'avais reçu au Palais de la Nation. On a aidé la ANC. Je ne veux pas dire que moi, je ne me suis pas amusé. Non, ça serait autre chose. Mais pas comme.
Voilà, monsieur Anzoloni Bembe, nous sommes à la fin de notre entretien, mais une dernière question avant de nous séparer. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez vous présenter à tous les niveaux en 2011, vous personnellement, vous allez vous présenter ou à la législation, à la présidentielle, au niveau provincial.
Dans notre regroupement aujourd'hui, nous disons que c'est au sein de ce regroupement qu'il y aura des représentations à tous les niveaux. Mais pour le moment, ce n'est pas notre préoccupation. C'est-à-dire, qui va aller?
Personnellement, vous aimeriez vous présenter où?
Je vous ai dit ici que le moment venu, au sein de notre regroupement, et avec d'autres regroupements, on verra si c'est tel ou tel qui peut nous représenter au niveau de la présidence de la République. Nous appuierons celui-là parce que c'est le même programme. Si c'est tel pour celle qui peut aller au niveau national, on le fera au niveau provincial. Donc, si je commence moi à vous dire aujourd'hui, moi je serai à tel niveau, c'est en contradiction avec ce que nous voulons prôner. Nous sommes la tête de prôner. Et le jour venu, effectivement, je vous ferai venir, madame. Pour vous annoncer, vous, madame, le moment est venu, voilà ce qu'a décidé notre regroupement politique.
Monsieur Anzolomi, je vous remercie.
Je vous remercie, madame. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, que la prochaine fois, nous aurons encore l'occasion de parler.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Anzolomi Bembe Issoulionni. Il est un politique congolais, ancien président du Conseil législatif, l'équivalent de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Actuellement, il est modérateur de l'Union sacrée pour l'alternance et un regroupement politique de l'opposition. Merci à Jean-Claude Tiala qui était à la technique, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.